Phare FM, aux portes du Dauphiné, 107. L'invité.
À l'occasion de la semaine de la vie sur Phare FM, nous allons parler de l'interruption volontaire de grossesse. En France, l'IVG peut être pratiqué jusqu'à la fin de la 12e semaine de grossesse. Aujourd'hui, le délit d'entrave se limite aux commandos anti-IVG qui s'enchaînaient aux grilles. La ministre de la Famille, Laurence Rossignol, voulait l'étendre au numérique, c'est-à-dire à certains sites jugés trompeurs. On va en discuter avec vous, Stéphane Clauzon. Vous êtes le président de l'association familiale catholique du Bas-Dauphiné. Bonjour.
Bonjour.
C'était une proposition d'amendement qui a été rejetée. Le parti socialiste, enfin les députés socialistes vont essayer d'en faire une proposition de loi. Déjà comme ça, quelle a été votre réaction, votre première réaction à cette annonce ?
La première réaction, ça a été de se demander quelle était l'origine de cet amendement et au départ de cette déclaration de Madame Rossignol concernant l'entrave numérique à l'IVG. Parce que entrave numérique, qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce qui était ciblé à travers l'entrave numérique à l'IVG. Donc en cherchant un petit peu, on s'est aperçu que sur Internet, il y avait certains sites qui proposaient des témoignages de personnes qui avaient eu recours à l'IVG et qui apportaient leurs témoignages et que cela pouvait porter... quelque part ombrage aux idées que voulait faire passer le gouvernement à travers les nouvelles lois, notamment la nouvelle loi santé, qui a encore amplifié, disons, ce qu'on appelle maintenant le droit à l'avortement. Donc la première réaction, ça a été d'abord d'aller voir quelle était l'origine de cette déclaration et puis de cette demande d'amendement, et après de se demander quel était le but finalement. Est-ce qu'on voulait museler une pensée qui ne serait pas la pensée du gouvernement sur ce sujet-là, ou est-ce qu'il y avait vraiment derrière de fausses informations qui étaient diffusées et qui pouvaient aller à l'encontre des femmes qui voulaient avoir recours à l'IVG. On s'aperçoit que finalement, l'impression qu'on a et l'acharnement qui est mis, puisqu'on est parti d'une déclaration, puis une demande d'amendement dans un projet de loi qui n'avait aucun rapport avec la santé. Et maintenant, il va y avoir un vrai projet de loi autour de ce sujet. Donc un acharnement qui fait que ça nous fait penser plus à une limitation de la liberté d'expression par rapport à ce sujet-là. Et peut-être pas aller jusqu'à l'imposition d'une pensée unique sur ce sujet-là, mais en tous les cas, essayer de limiter l'expression de personnes qui ne font que témoigner finalement.
On l'a vu de manière générale tout au long de ce quinquennat avec une stigmatisation, j'ai envie de dire, des chrétiens qui passaient, que ce soit pour le mariage pour tous ou pour des questions d'interruption volontaire de grossesse comme ça, pour finalement des réactionnaires. C'est quelque chose presque à laquelle on pouvait s'attendre finalement, cette situation-là.
Je crois que le premier surpris a été le gouvernement quand il s'est aperçu que les chrétiens, qui maintenant sont devenus une minorité en France, se sont mis à se mobiliser en nombre et à faire part de leurs idées dans le sens du bien commun de la société. Et pas forcément pour défendre le pouvoir d'une minorité ou réclamer des droits pour une minorité, mais surtout faire entendre leur voix et montrer qu'eux aussi ont une vision de la société et que cette vision, ils veulent la promouvoir pour l'ensemble de la société et pas simplement pour eux et pour leur minorité. Donc je crois que le premier surpris, ça a été le gouvernement. Et je crois que derrière, il y a eu une crispation. Et si on regarde avec un peu de recul ce qui s'est passé effectivement depuis 2013, on s'aperçoit que maintenant, le gouvernement est attentif à tout ce qui peut être une déclaration dite chrétienne ou une pensée dite chrétienne et qui va à l'encontre de leur projet. Et on voit bien que ça gêne puisqu'on arrive à des projets comme celui-ci qui sont à la limite, je dirais, presque de la démocratie.
Alors c'est vrai que ces sites, on en a beaucoup entendu parler dans la presse. En plus, juridiquement, ils n'ont rien de malfaisant. C'est des sites qui sont bien construits, qui ne vont pas contre la loi en tant que telle aujourd'hui.
Non seulement ils ne vont pas contre la loi, mais ils expliquent la loi et ils rappellent sur leur site quels sont les termes exacts de la loi. Ce qui a été modifié depuis la loi Veil de 1975 et quelles sont les possibilités niveau des aides, au niveau de l'assistance psychologique, au niveau des devoirs des médecins et des praticiens par rapport à l'avortement. Et en plus, ils fournissent des témoignages, mais qui sont des témoignages de personnes qui ont eu recours à l'IVG, donc qui ne sont pas des témoignages construits de toutes pièces pour essayer de faire passer une propagande. Ils sont là juste pour apporter leur voix à ce que ces personnes ont vécu. Donc non, juridiquement, il n'y a rien jusqu'à présent contre ces sites-là, d'où peut-être ce projet de loi.
Vous, aujourd'hui, en tant qu'association familiale, vous estimez, vous avez l'impression que les femmes sont suffisamment informées, suffisamment au courant de leurs droits en matière d'avortement, bien sûr, mais aussi peut-être des potentiels dangers liés à l'avortement ou des possibilités après l'accouchement pour celles qui veulent garder ou faire placer leur enfant, par exemple?
Alors, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que déjà la loi a bien évolué et la société française a peut-être pas vu non plus totalement l'évolution de cette voie, et ce sont peut-être les chrétiens qui en premier ont posé un point sur la dérive de cette loi. Au départ, quand Simone Veil fait voter la loi, elle rappelle l'importance de la vie, elle parle d'état de détresse et elle demande aux femmes qui demandent à avoir recours à l'IVG de faire état de cette détresse, pas pour stigmatiser la personne, mais aussi pour que derrière il puisse y avoir une assistance de cette personne, un suivi, et qu'on arrive à comprendre les raisons de cette détresse-là. Il se trouve que depuis, l'état de détresse a été enlevé dans les termes de la loi, que le délai de réflexion de 7 jours qui était obligatoire dans la loi a été aussi supprimé, ce qui enlève des possibilités pour les femmes de savoir exactement quelle va être, même si on ne le sait pas à 100%, parce que ça reste un acte médical, et un acte médical qui est personnel, donc chacun réagit d'une façon différente, mais ces personnes qui veulent avoir recours à l'IVG n'ont pas les moyens d'être informées aujourd'hui de l'impact que ça pourrait avoir, et on ne leur laisse pas forcément la possibilité de réfléchir à cet acte-là et de voir s'il y a des alternatives possibles. Et vous le disiez, je ne suis pas sûr que, je suis même quasiment certain du contraire, que dans les structures dans lesquelles les femmes vont pour demander à avoir recours à une IVG, on leur fasse une information sur les possibilités de pouvoir garder leur enfant et ensuite les aides qu'elles pourront avoir si elles gardent leur enfant et l'assistance qu'elles pourront avoir. Il y a une autre chose qui nous gêne en tant qu'association familiale, c'est que, notamment pour les mineurs, les parents n'ont plus aucun droit. Donc ces jeunes filles peuvent être accompagnées, doivent être accompagnées par une personne majeure, mais cette personne majeure, rien n'est précisé. À notre sens, c'est quand même la famille. Alors, s'il y a des conflits dans la famille, si par rapport à ce sujet-là, c'est là que l'assistance psychologique peut être importante et qu'on devrait pouvoir aider ces personnes à résoudre ce conflit avant de procéder à l'IVG. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune information qui est faite. Donc, ces jeunes filles viennent avec la personne qu'elles pensent être peut-être leur confident ou leur confidente et qui n'a peut-être aucun rapport avec leur famille. Et on ne sait pas dans quelles intentions cette personne-là les accompagne non plus. Donc on est vraiment dans le flou total, et je pense que les jeunes filles et les femmes qui veulent avoir recours à l'IVG n'ont pas l'information nécessaire. Et ce qui est gênant, c'est que quand on voit que les témoignages posent problème au gouvernement, il y a vraiment un souci de liberté, c'est-à-dire qu'un témoignage, quoi de plus naturel qu'un témoignage de quelqu'un qui a vécu cette situation-là pour aider quelqu'un d'autre à envisager ce qui pourrait éventuellement vivre s'ils en passaient par là.
Ça doit pousser les chrétiens à s'interroger sur leur liberté d'expression aujourd'hui. Est-ce qu'on a le droit ? On a le droit, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui effectivement dire ce qu'on pense, même si ça va à l'encontre de la pensée gouvernementale ?
Aujourd'hui, je pense, et vous en êtes la preuve, non ? Qu'on a encore la possibilité de s'exprimer en tant que chrétien. Maintenant, tous les signes du gouvernement à l'heure actuelle nous montre qu'on va vers une réduction de cette liberté. Quand on pense que certains ministres se permettent de donner des leçons au pape, alors que finalement, ils ne reconnaissent pas l'autorité religieuse comme une autorité de la nation. Donc l'autorité religieuse n'a aucun pouvoir au niveau de la République française. Et certains ministres donnent des leçons au pape quand le pape ne parle pas bien, ou quand il est influencé par des intégristes qui lui diraient exactement ce qu'il faut dire. Donc c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est dans une situation où on a encore la liberté, mais on s'aperçoit que est-ce qu'on aura toujours la liberté de dire aussi la vérité ? Parce qu'on est vraiment dans cette problématique-là, c'est-à-dire que dès qu'on essaie d'apporter une parole vraie, qui est basée sur des faits, qui est basée sur des chiffres, on est de plus en plus limité. Et on le voit avec l'IVG, c'est que l'année dernière, il y a eu 200 000 IVG. On est un des pays européens où la contraception est la plus développée. On a fait des efforts considérables par rapport à la contraception, quasiment de l'école primaire jusqu'à l'âge adulte. L'éducation affective et sexuelle se limite souvent dans les établissements scolaires à la contraception. Donc l'information passe et on a toujours autant d'IVG et on a encore des collégiens ou des lycéens qui ont recours à l'IVG. On ne peut pas dire que ce soit un acte anodin, ça reste un acte médical. Alors peut-être que certains disent qu'ils le vivent bien, mais enfin, est-ce qu'on peut considérer qu'il est normal dans notre pays, qui est un pays développé, où il y a une éducation obligatoire, que des enfants aient recours à l'IVG, parce que certains sont encore des enfants, au moins dans leur tête, aient recours à l'IVG. C'est bien qu'il y a un problème, et au lieu de réfléchir sur cette problématique de santé, qui est une vraie problématique, parce que je crois qu'au-delà des termes de la loi, personne aujourd'hui en France est pour l'avortement ou va dire bah, c'est bien que des jeunes filles avortent. On sent bien que s'il y a avortement, c'est qu'il y a un problème quelque part et qu'il y a quelque chose qui n'a pas été voulu. Donc on est en deçà de la vérité, on essaie de cacher la vérité parce qu'il y a une vraie problématique de santé et qu'on n'essaie pas de la résoudre. On essaie surtout de faire du palliatif. Donc on essaie de cacher finalement un état de fait qui est là et une problématique à laquelle on ne sait pas répondre.
D'après les chiffres donc de cette année, plus de 22 600 IVG ont été réalisés l'an dernier dans notre région. Ça fait un peu plus de 13 IVG pour 1000 femmes de 15 à 49 ans. Ça fait nous la deuxième région de France en termes d'IVG. 6 mineurs sur 1000, plus de 6 mineurs sur 1000 ont fait une interruption volontaire de grossesse l'an dernier dans la région. J'ai presque envie de dire, comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres qui sont quand même assez considérables? Alors c'est difficile d'expliquer, mais...
Je pense qu'aujourd'hui, on a un réel problème d'éducation affective et sexuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apprend à mettre un préservatif quand on est un garçon, à prendre la pilule quand on est une fille. On n'apprend pas ce qu'est la relation entre un homme et une femme, on n'apprend pas ce qu'est l'amour, on n'apprend pas ce que peut être une relation de couple. Donc les enfants sont plongés dans la sexualité. Quand on s'aperçoit qu'à 13 ans, je n'ai pas le pourcentage exact, mais il y a un pourcentage relativement important d'enfants qui ont déjà vu de la pornographie. Les enfants sont jetés, entre guillemets, dans la sexualité, dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et à une période de leur vie où finalement, ils cherchent à construire leur personnalité et la sexualité qu'on ne leur a pas expliqué et qu'ils se mettent à pratiquer un peu de façon sauvage ou hasardeuse, fait qu'on arrive à des situations où les lycéennes ont déjà pratiqué un ou deux IVG. Est-ce vraiment une situation que même l'État français peut accepter? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une réussite? Que l'IVG soit un droit ou pas, est-ce qu'on peut considérer que des enfants, des jeunes adolescents aient recours à l'IVG et surtout mettent quelque part en jeu tout le reste de leur vie affective? Parce que les témoignages montrent quand même que les jeunes, voire les moins jeunes qui ont eu recours à l'IVG, derrière ont eu aussi dans leur vie affective des passages compliqués liés à ces actes-là. Le vrai problème, c'est un problème d'éducation et d'éducation affective. Et du début de la vie jusqu'au mariage ou jusqu'à la vie en couple, mais c'est le vrai enjeu. C'est-à-dire que savoir exactement ce que je fais avec mon corps, parce que mon corps, c'est pas mon corps m'appartient, comme veut le dire le gouvernement, c'est mon corps est une partie de moi-même. Et donc quand j'utilise mon corps, c'est moi-même que j'utilise, entre guillemets. Donc si je lui donne pas de sens, je donne pas de sens à la vie que j'ai.
C'est pour ça que ces sites sont si importants finalement pour essayer de faire contrepoids un petit peu et d'essayer d'apporter une information la plus complète possible.
Ces sites sont importants par leur témoignage, ils sont je pense nécessaires, mais au-delà de ça, il faut une vraie politique d'éducation affective. Parce que finalement, dans les témoignages, on voit des actes qui ont été vécus et qui ont été vécus des fois ou souvent douloureusement. Ce qu'il faut montrer aux enfants et aux adolescents aujourd'hui, c'est la beauté de la vie. On commence par leur montrer aujourd'hui finalement les blessures de la vie avant de leur montrer la beauté de la vie. Et je crois que le sens de la vie, c'est aussi de montrer que cette vie, elle est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue, y compris dans sa sexualité.
Et c'est là que nous tous, on a notre rôle à jouer. Comment est-ce qu'on peut essayer de manifester cet amour de la vie ?
Alors, on peut le manifester en tant que parent, parce que je pense que c'est la famille qui est d'abord le premier lieu où va se faire l'éducation affective. Les rapports entre parents et enfants, quasiment de la naissance jusqu'à ce qu'ils prennent leur indépendance, sont importants. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de prévenir aussi le fait que nos enfants, de façon malencontreuse, seront peut-être amenés à voir des images qu'ils n'auraient pas dû voir et qui vont peut-être les choquer. Donc l'éducation affective, il faut qu'elle commence tôt. Et je crois que dans la société, au niveau associatif, il faut essayer de promouvoir toutes les démarches éducatives, à la fois pour les parents et pour les enfants, proposer des parcours pour expliquer ce qu'est la vie, ce qu'est le sens de la sexualité. Parce qu'aujourd'hui, à 11 ans, un enfant peut être amené à regarder de la pornographie, avoir des comportements sexuels complètement débridés, alors que les parents n'en auront jamais parlé avec leur enfant. Donc je pense qu'au départ, cela se fait surtout et d'abord au sein de la famille. Et je crois qu'il faut que les parents prennent conscience que très tôt, il faut parler éducation affective, et surtout dans la société dans laquelle on vit. Et ensuite, il faut que tous les mouvements associatifs ou qui sont même, j'allais dire, le pouvoir politique au niveau local, s'investissent sur ce sujet-là. Parce qu'il n'y a pas que la contraception et que l'avortement dans la sexualité. Et si on regarde de façon uniquement comptable, tout le monde va y retrouver son compte. Parce que ce sont des choses qui ont un impact important sur toute la société.
On va revenir un petit peu à notre sujet de base, qui était donc ce délit d'entrave. Aujourd'hui, donc, le pouvoir politique, les députés socialistes, aimeraient faire passer cette loi, cette proposition de loi, très vite, avant la fin de l'année. Est-ce qu'on peut imaginer que finalement les chrétiens, tous ceux qui sont contre cette proposition de loi, puissent se lever, puissent dire stop, il ne faut pas faire ça, puissent user de cette liberté d'expression qu'on est en train d'essayer peut-être de raboter petit à petit?
Je pense que non seulement ils le peuvent, mais ils le doivent, et ils ne le doivent pas forcément par... Alors ils peuvent le faire par de grandes manifestations, ou par, mais ils peuvent le faire aussi au jour le jour, en allant voir leurs élus locaux, en s'investissant peut-être au niveau politique, mais c'est aussi le rôle des chrétiens d'être dans la société, d'être dans le monde et d'agir dans le monde pour le bien commun. Donc il faut que dans les mouvements auxquels ils appartiennent, dans les associations, par rapport à leurs élus locaux, voire départementaux, il faut qu'on fasse passer ce message et qu'on dise il y a un réel problème de santé. Et ça, quels que soient les projets de loi, le gouvernement ne peut pas nier qu'il y a un problème de santé par rapport à l'IVG. On ne peut pas avoir un tel taux de contraception et un nombre d'IVG aussi important. Parce que l'IVG, même si c'est un droit reconnu par la loi, ce n'est pas une victoire. On ne peut pas dire que c'est une victoire pour la femme, on ne peut pas dire que c'est une victoire pour le féminisme, on ne peut pas dire que ce soit un acte de liberté de la femme. Donc il y a un échec quelque part, et ça on ne peut pas le nier. Parce que le but de la loi était aussi, en 75, alors ça commence à dater, mais c'était peut-être d'éviter des avortements illégaux ou d'éviter de mettre en danger les femmes par des actes qui seraient faits un peu n'importe comment, et de femmes qui allaient à l'étranger pour avorter. Donc le but... Même si cette loi ouvrait droit à l'avortement quelque part, le but c'était quand même de résoudre un problème de santé. Et aujourd'hui on est loin de ça. Aujourd'hui on a un argument du gouvernement pour dire c'est un droit des femmes. Certes c'est un droit, mais qu'est-ce que ça apporte à la femme finalement ? Est-ce que ça libère vraiment la femme, le droit à l'IVG ?
Finalement, il faut désacraliser un petit peu ce droit à l'IVG. L'IVG, c'est pas comme le droit de vote des femmes, ça doit être une option d'ultime recours.
Oui, on reste quand même si la loi a évolué, on reste sur un acte médical fait par des praticiens et des professionnels de santé. Donc c'est pas un acte anodin. On sait que ça a des conséquences. Et puis, comme le disait y compris la loi Veil au départ, le but n'était pas de porter atteinte à la vie. Et là, on porte atteinte à la vie. Alors, je ne sais pas si le gouvernement a sacralisé le droit à l'IVG. Nous, non, en tous les cas. Donc, mais en tous les cas, oui, il faut surtout qu'on ait une vision vraie de ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le message qui est passé, notamment par le gouvernement, n'est pas une vraie image de la réalité de l'IVG. C'est clair.
Il faut donc pouvoir oser continuer à le dire.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Stéphane Clauzon.
Merci à vous.